This is Esther Abrami. Welcome to Women in Classical, the podcast where I meet with inspiring women from the classical music world and discuss their unique careers, the challenges that they face, and the insights that they'd wish to have known when entering the music business. Today, I am speaking with French ballet dancer and content creator Victoria d'Auberville. As we recorded this episode in Paris, it will be in French, and we will be discussing how to be confident in a competitive artistic field and how to stop identifying yourself to others. Du coup, bienvenue Victoria.
Merci
beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
Avec plaisir.
Donc, du coup, Victoria d'Auberville, qui est danseuse classique,
exactement,
chorégraphe et aussi créatrice de contenu.
Voilà. Sur les réseaux sociaux.
Alors du coup, je trouve qu'il y a un truc très intéressant, je sais qu'on ira en plus de détails, mais c'est le fait que vraiment tu donnes, et je pense que c'est un truc qu'on a un peu en commun, où tu t'essaies de donner à la danse classique une image un petit peu différente, une image plus moderne, à faire vraiment des vidéos, des fois dans des endroits où on ne s'attend pas. Voilà, c'est vrai que je pense qu'on a un petit peu ce lien. Moi, c'est de suite avec ça que j'ai accroché, parce que j'essaie de faire la même chose dans la musique classique. Mais on va recommencer déjà au début. Comment est-ce que tu as commencer la danse, à quel âge et surtout à quel moment en fait tu t'es dit je vais en faire mon métier?
Alors j'ai commencé la danse à l'âge de 5 ans dans une toute petite école à Orléans. Ensuite je suis arrivée à Paris, je suis rentrée dans un conservatoire, schéma typique. À partir de 8-9 ans, on m'a dit oh tu as du potentiel, tu as le physique, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est là où j'ai vraiment commencé à me rendre compte que ça pouvait devenir un métier. Donc, je me suis préparée pour présenter l'audition de l'Opéra de Paris.
D'accord.
Pour les enfants, donc l'école de danse.
C'est quand tu avais 9 ans, c'est ça?
Exactement.
D'accord.
Donc, je suis rentrée à l'école de danse à l'âge de 9 ans, dans l'internat, donc pour suivre le cursus de l'Opéra de Paris.
C'est tôt?
C'est très tôt, c'est très tôt. Et ensuite, je suis rentrée au Conservatoire National de Danse et de Musique à Paris, le CNSM. Mm-hmm. J'ai poursuivi mes études de danse pendant presque 8 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans où j'ai été diplômée. Et de là, je suis rentrée en compagnie, donc à l'Opéra de Bordeaux. Donc, j'ai fait plein de petites compagnies, plein de productions différentes. Et après, j'ai commencé à m'intéresser de près aux réseaux sociaux.
D'accord. Et du coup, j'imagine, parce que déjà, être en internat à 9 ans, enfin, moi, je suis partie, j'avais 14 ans, je suis partie en Angleterre, j'ai déjà trouvé ça tôt, c'était génial, c'est une expérience géniale, mais 9 ans, c'est très tôt. Comment t'as géré ça au niveau pression, au niveau, et surtout aussi même au niveau, par exemple, de l'école, comment t'es arrivée à faire tout ça en même temps? Parce que c'est vrai qu'un truc, les gens ne se rendent pas compte, et je pense qu'il y a un lien avec la musique classique et la danse, évidemment, c'est qu'on commence très jeune et qu'on fait des sacrifices très jeunes.
Très tôt, oui.
Et alors que généralement, les autres vont être là à sortir quand on est ado, nous, on reste là à travailler. Donc, comment un peu tu as vécu ça?
Exactement. En fait, à 9 ans, j'ai l'impression que je ne me rendais pas vraiment compte. Évidemment, je voyais mes parents que le week-end, mais j'aimais tellement ce que je faisais que je ne le voyais pas vraiment. Après, c'est plus sur le temps. J'avais des amis qui, eux, ont suivi des cursus normaux, qui sortaient, qui me disaient « Mais alors, tu viens ?» Et moi, j'étais là « Mais non, demain matin, 8h, je danse, en fait. » Donc, chez nous, en fait, ça fonctionne avec l'école le matin, la danse l'après-midi.
D'accord.
On nous apprend plusieurs sortes de danse et on vit tous en communauté, tous ensemble. Donc, c'est vrai que l'entente avec les autres danseurs est assez importante pour vraiment pouvoir bien vivre là-bas. Malheureusement, ça n'a pas été totalement mon cas parce qu'il y a une telle compétition que...
Ce que j'avais demandé, parce que c'est vrai qu'on a un peu cette idée, alors je ne sais pas si c'est un peu surfait dans les films, etc., mais on a un peu cette idée où des fois, il y a une compétition énorme entre vous.
C'est totalement vrai, hein. Il y a une vraie compétition qui est très impressionnante chez les enfants de 8-9 ans.
Ouais.
Je trouve que c'est vraiment le moment où les enfants se battent pour avoir leur place.
Est-ce qu'il y a une pression des parents aussi derrière, des fois?
Je pense que ça dépend des parents. Moi, j'ai des parents qui m'ont vraiment suivie et qui ont été vraiment à l'écoute. Après, évidemment, on a le cas de ballerines complètement poussées par la maman qui veut absolument que sa fille devienne la danseuse étoile et qui va la pousser à prendre énormément de cours de danse, des cours en plus, etc.
Depuis tes 8-9 ans, du coup, tu es vraiment dans ce milieu-là et tu es passionnée par ça et tu as envie de te faire ton métier. À quel moment tu as eu vraiment, je ne sais pas, si tu pouvais choisir un moment ou ça a été un moment dont tu vas te rappeler toute ta vie, dans ta carrière, je ne sais pas, un jour, un événement, une rencontre, ce serait quoi?
J'en ai un qui est très joli. À l'âge de 9 ans, quand je suis rentrée à l'opéra, donc au début, on commence sous forme de stage et on n'est pas amené à danser tout de suite sur la scène. J'ai eu de la chance. Une danseuse, malheureusement, était blessée et on m'a demandé de remplacer pour l'ouverture de la saison, donc le défilé. C'était un des moments les plus beaux que j'ai fait danser de ma vie. C'est un souvenir extraordinaire de voir la scène de l'Opéra Garnier. Bon, il y a une pente comme ça, donc faut être capable de marcher droit, regarder en face de soi, tenir le vent, tenir le dos, etc. Mais c'était fabuleux. Le plus beau moment, c'est celui-ci.
Et après ça, je voudrais peut-être parler plutôt du coup des challenges. Donc, c'est toujours une partie dans l'interview que j'aime bien parce que on a souvent tendance, et je pense que tu vas sûrement le savoir avec les réseaux sociaux aussi, à montrer un côté toujours un peu brillant. On ne se rend pas compte, en fait, et même la plupart des gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'on fait pour arriver où on est aujourd'hui, pour arriver à faire d'une passion un vrai métier, parce qu'il y a évidemment tout un projet là-dedans. Donc, pour toi, quels ont été un peu les problèmes déjà que tu as dû...
Vaincre,
voilà. Et en tant que dans le monde de la danse, et puis après en tant que femme. Et c'est vrai que dans le monde de la musique classique, c'est un monde qui est très masculin. Du coup, ça va être, c'est intéressant
Du côté féminin.
C'est différent parce que voilà, effectivement, du coup, t'as un côté plus féminin. Après, je sais pas si par exemple dans la chorégraphie, est-ce que c'est aussi.
Alors, moi, comme on peut le voir, je suis grande. Et j'ai fait une poussée de croissance à l'âge de 9 ans. Donc, à l'âge de 9 ans, je faisais déjà 1m65, 12 ans, 1m70.
Et alors, moi, j'ai jamais
15 ans, 1m74. Dieu merci, ça s'est arrêté. Mais c'est vrai qu'on me l'a beaucoup répété. Et tous les jours, c'était « t'es grande, alors tu dois faire attention à ça. Tes mouvements, on les voit plus. Donc, si c'est pas parfait, eh ben, tu sors, tu n'es pas gardée. » Je sais que l'opéra, plusieurs fois, m'a dit « attention, il ne faut pas être trop grande chez nous, les garçons doivent te porter, il faut préserver aussi le dos des garçons. » Donc, c'est vrai que ça a été un challenge de me dire comment, par mon physique, je peux transformer ça en force. Ouais. Et évidemment, je me suis beaucoup inspirée de danseuses qui font ma taille et qui ont mon gabarit, parce que pour moi, c'était vraiment un challenge. Et quand j'essayais de rentrer dans des compagnies, de nombreux sons m'ont dit « vous dansez bien, mais on n'a pas de garçon à votre taille. » Donc, sur pointe, vous allez cacher votre partenaire de derrière. Oui. Donc voilà, ça a été plutôt le gros challenge tout au long de ma carrière. Ça a été autour de ma taille. Et une fois que j'en ai fait vraiment une force et que je me suis dit, mais moi, j'aime bien voir les danseuses grandes danser. Je trouve que c'est différent. Elles amènent un caractère différent aussi. Je m'y suis fait.
Et c'est vrai que c'est intéressant, effectivement, de prendre quelque chose qui, au départ, peut être une faiblesse ou même quelque chose qui va te faire avoir moins confiance en toi et essayer de le tourner en force, apprendre à s'accepter comme on est, etc.
Exactement. Et puis, c'est vrai que dans ma classe de danse, elles étaient toutes plutôt petites et elles étaient toutes de la même taille, en fait. Donc, j'étais la grande Bambi, donc facile à détruire, proie facile, évidemment. Donc, c'est vrai qu'avec les autres filles, ça n'a pas été simple. Moi, je m'attendais plutôt à me faire plein d'amis et me dire que j'allais être dans un environnement très familial. Mmh. Ça n'a pas été le cas.
C'est vrai qu'il y a un truc, et on en a parlé, j'en ai parlé récemment, qui est, c'est vrai moi, j'ai toujours été, même dans le milieu de la musique, dans mes études, on nous a un petit peu, entre les filles qu'il y avait, on nous a mis en compétition. Exactement, on a tendance, au lieu d'avoir cet esprit de communauté qu'on pourrait avoir, et quand les choses changent, on commence à l'avoir, mais on a tendance à nous mettre directement en compétition sur le physique, surtout sur des choses qui en soi même ne rentrent pas vraiment en compte.
Bien sûr.
Mais on te met en compétition au lieu alors qu'en fait, et j'ai réalisé, il y a même juste quelques années, j'ai réalisé en fait le pouvoir qu'on peut avoir si au lieu de voir une autre femme comme une compétition qui va faire dans la même chose, mais plutôt comme on peut s'entraider, on peut avoir une vraie communauté sur laquelle on peut compter, on peut s'entraider, on est toutes différentes, on a toutes nos...
Bien sûr, après c'est vrai que je dirais à l'école de danse, malheureusement comme chaque année, il y a plein de danseurs qui partent, on ne peut pas avoir ce côté famille on crée tous ensemble, on se bat ensemble. Malheureusement, ça n'existe pas parce qu'on sait que peut-être ta meilleure copine partira à la fin de l'année et que peut-être on va renvoyer 5 élèves sur une promo de 10.
Ouais.
Donc, ce qui est énorme. Vraiment, donc, chacun se bat pour sa place. Ouais. En revanche, dans les compagnies, là, ça devient
c'est différent,
très différent, exactement. Mm-hmm. Je trouve que là, on peut retrouver beaucoup plus ce côté famille, beaucoup de danseurs, coach aussi d'autres danseurs.
Ouais.
Et ça, c'est top parce que ça amène justement cette envie de donner ce qu'on a appris. Voilà, on le trouve plutôt plus tard chez nous.
Et j'étais intéressée aussi dans le monde de la chorégraphie.
Mm-hmm.
Comment donc tu es un petit peu rentrée là-dedans et comment en fait, parce que du coup, on a une place différente. Alors, je ne sais pas, tu vas pouvoir me dire, mais par exemple, dans la musique, des musiciennes, mais non, il y en a beaucoup, mais par exemple, quand on va parler d'un producteur, ça va être généralement un homme. Quand on va parler d'un chef d'orchestre, ça va être généralement des hommes. Compositeur. Donc, est-ce que du côté de la chorégraphie, ça change un petit peu ?
En tant que chorégraphe, ce qui est chouette, c'est que déjà, on va travailler tout seul ou voir avec un assistant. Donc, on ne va pas se retrouver déjà avec tous les autres chorégraphes.
Ouais.
Ça arrive plutôt rarement. Je me suis toujours sentie plutôt à ma place. C'est vrai que moi, très vite, ça a été plutôt de la chorégraphie pour des pubs. Ça n'a pas été vraiment pour le ballet, en tout cas à l'heure actuelle, même si j'aimerais beaucoup. Ça a été plus dans des pubs, dans une création que j'ai fait en Ukraine, à Kiev, d'un duo. Voilà, j'ai plutôt pour l'instant été dans cette rubrique-là. Je n'ai pas senti, là tout de suite, le sentiment de, en tant que femme, de ne pas être légitime d'être à cette place-là. Après, dans le milieu de la danse, on a des femmes chorégraphes depuis toujours. Je m'inspire énormément aussi de Pina Bausch, qui est pour moi vraiment une grande référence dans le milieu de la danse et de la chorégraphie, et qui, elle, a imposé tout de suite ce côté très fort, très féminin, à danser avec beaucoup de femmes, à vraiment vouloir rendre les femmes girl power et très présentes et toujours dans des rôles très importants. Donc, je trouve qu'elle a plutôt amené d'ores et déjà ce truc-là, qui a fait que les autres, après, ont eu la chance de pouvoir venir parce qu'elle avait ouvert ses portes.
C'est ça. Mais c'est vrai que c'est très important d'avoir un peu ces figures dans le monde. Et c'est vrai que dans le monde du classique, il y a eu certaines figures. Et malheureusement, pour beaucoup, elles ont été oubliées. On a eu beaucoup de figures compositrices qui ont été extrêmement connues de leur temps et qui pourtant ont été oubliés. J'avais même fait, juste récemment, où je faisais des recherches sur plusieurs femmes compositrices, et c'est fou parce que le paragraphe qui finit chaque biographie est le même, qui est elle a été oubliée. C'est vraiment, elle a été oubliée. Moi. Mais c'est vrai que c'est extrêmement important, et c'est pour ça que d'ailleurs j'aime faire ce podcast, et parce que je pense que c'est avoir, quand on grandit, avoir quelqu'un qui nous inspire, avoir quelqu'un à qui on peut s'identifier. C'est super important.
Bien
et
sûr.
Du coup, je vais enchaîner sur la prochaine question. Pour toi, quelles ont été un peu les figures qui t'ont inspiré, qui ont fait que, même dans les moments difficiles, tu te dis « non, je vais continuer, je vais y arriver ».
Alors, il y en a eu beaucoup. Elles ne venaient pas toutes du monde du ballet. Je dirais la toute première a été Sylvie Guillem, évidemment très grande ballerine de l'Opéra de Paris, puis du Royal Ballet, qui a fait une carrière solo extraordinaire. Donc évidemment, comme c'était la première à faire ça, je tombais vraiment en admiration devant elle. Beaucoup évidemment de danseuses grandes, dont Agnès Le Testu, Marie-Agnès Gillot. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, j'ai plusieurs femmes qui m'ont en fait beaucoup marquée et qui m'ont beaucoup appris, qui sont en fait devenues très rapidement des références. Pas uniquement dans des milieux artistiques, mais ça peut être des femmes chefs d'État, comme évidemment, bien sûr, des musiciennes ou des actrices. Plutôt naturellement, beaucoup ma maman. Je me suis laissée porter et c'est vrai qu'aussi, j'ai beaucoup admiré des hommes danseurs. Je trouvais que c'était intéressant de voir la force qu'ils avaient. Et à un moment, je me suis dit, tiens, est-ce que cette force-là, moi, je pourrais me la permettre? Et oui, voilà, je me suis vraiment inspirée de tout ce petit monde-là sur un très grand éventail.
Et du coup, dernière question, mais qui est une question pour moi très importante. Il y a des choses qu'on apprend sur le tas, par nos erreurs, par des moments où on s'est senti vraiment au fond et on a failli abandonner. Et des choses qu'on, voilà, qu'on a appris petit à petit. Si tu pouvais donner vraiment en fait un conseil, ou plusieurs même, à des jeunes filles qui démarraient maintenant, et je pense aussi au fait que bon, on est toutes les deux beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est pas toujours facile. Et je pense qu'aussi, même maintenant, dans une génération qui grandit avec les réseaux sociaux dès le plus jeune âge en soi, comment, voilà, quels seraient tes conseils?
C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de faiblesse par le fait d'être grande dans le milieu aussi dyslexique. Ça a été très compliqué pour moi de vraiment trouver ma place. Mmh. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais aimé que quelqu'un me dise « Mais prends confiance en toi, tu n'es pas là pour ressembler à quelqu'un d'autre. Mmh. » Pendant très longtemps, j'ai été à me dire « Ah bah, je me compare aux autres et je ressemble à personne. Mmh. » Donc, je dirais que le fait d'arrêter de s'identifier à quelqu'un est très important et créer son propre style, son propre univers. C'est vraiment ce que j'ai essayé d'amener sur les réseaux sociaux. Je suis une personne assez drôle, j'adore rigoler. Et pour moi, ça a coulé de sens de pouvoir créer des contenus sur les réseaux sociaux drôles, amusants, plus proches du public, plus ouais. proches des gens, plus, qui peut peut-être changer et amener des nouveaux codes oui. dans le monde de la danse classique. Voilà, de pouvoir tourner autour de tout ça. Je pense que la danse classique, ça peut être parfois très loin des gens. Et ça devrait s'adresser à tout le monde.
Effectivement, mais je pense qu'on a aussi un peu des images un petit peu...
Très connotées.
Voilà, exactement.
Ah oui, ouais. Les métiers sont très connotés. Donc, c'est vrai que de voir en plus une femme faire quelque chose d'amusant, ouais. c'est pas anodin. Donc, c'est vrai que c'était pour moi, je trouve, une belle porte de sortie. Et pour une fois dans ma vie, je me suis dit, bah, je suis à ma place ouais. et c'est celle-ci.
C'est super, je pense qu'effectivement, mais c'est pas facile de trouver sa place, d'avoir confiance en soi. Est-ce que tu pourrais par exemple me dire comment tu as fait justement pour arriver à faire ce chemin-là, pour arriver à prendre confiance en toi? Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on demande souvent et c'est un problème qui est récurrent, je trouve, chez beaucoup de filles plus jeunes. C'est ce manque de confiance en soi, c'est le fait qu'on a tout le temps tendance à se comparer, encore plus, encore une fois, quand on avec les réseaux sociaux, il y a des côtés tellement positifs avec. Mais le bien côté sûr. Négatif, c'est vrai qu'on a tout le temps tendance à regarder, à se comparer. Et c'est vrai que même aussi, moi, dans le monde de la musique, j'ai mis un petit peu de temps. Mais vers 18-19 ans, j'ai pris ma propre voie et j'ai jamais été plus heureuse que le moment où je me suis sentie à ma place, le moment où j'ai eu le courage de me dire « Non, mais je fais ça et peu importe ce que j'en dise, peu importe les jugements, de toute façon, j'avais rien à perdre. » Et voilà, mais il y a ce sentiment vraiment de se sentir à sa place, de sentir qu'on est là où on devrait être, mais c'est toujours pas facile d'arriver là. Donc pour toi, comment tu as fait vraiment pour arriver à avoir confiance en toi comme ça?
En fait, pour moi, les portes très tôt se sont beaucoup fermées. Donc ça a été très dur. Je me rappelle avoir passé des nuits à pleurer en me disant, mais en fait, pourquoi je fais ce métier? Quel est l'intérêt de me sentir détruire et d'être plus bas que terre? Et en fait, c'est sur le temps qu'on apprend, parce que plus les portes se ferment, plus on s'endurcit, plus on essaie de travailler encore plus. Ça pousse aussi. Parfois, il y a un côté bénéfique quand les choses ne marchent pas, parce que ça veut dire que quelque part ailleurs, elles vont marcher. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder un optimisme important pour se dire « je dois continuer si j'aime ce métier, si je suis faite pour ce métier, si ça résonne au plus profond de mon corps, c'est qu'il y a quelque chose au bout ». Et c'est le plus important. Peu importe que les gens disent bah, « t'es comme ci, t'es comme ça, il faut avoir un corps comme ça pour faire la danse, il faut jouer comme ça pour faire du violon et peut-être avoir ce visage. Ou... » Je pense qu'il faut passer au-delà et, comme on disait, trouver sa voix, en fait. Et c'est là où on prend vraiment confiance en soi. C'est quand on a trouvé son ancrage et l'endroit qui nous convient.
Merci beaucoup.
Merci.
Pour tous tes conseils, pour tout ce que tu as partagé. Merci.
Merci,
et merci à vous d'avoir écouté.
We'll be right back. Et salut, c'est Cédric de Papatriarca, le podcast de parentalité engagée. Je suis ravi de faire partie de la sélection Acast Recommande pour vous faire découvrir de chouettes échanges sur la parentalité. Tu trouveras des parents, bien sûr, de tous horizons, avec des expériences enrichissantes et je te conseille de découvrir mon format Histoire de parents. Il y a aussi des experts français comme la docteure Catherine Guéguin, Isabelle Filiosa, André Stern, la docteure Héloïse Junier et aussi internationaux comme le docteur Alan Kazdin. Des expériences de vie, des outils, des échanges, le tout sans jugement et sans tabou. Rendez-vous tout de suite sur Apple Podcast, Spotify ou ton appli de podcast préféré.